Face à Duhamel sur la trumpisation des esprits politiques français avec Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre. Bonsoir Roselyne.
Bonjour le garçon tout seul, bonjour Alain.
Bonjour.
Bonsoir Alain Duhamel. Mais pour bien comprendre la nature de notre discussion, de notre débat...
Oui, des fois qu'on serait un peu idiot.
Autant le contextualiser avec Julien Migaud-Muller maintenant. Bonsoir Julien. Parce que c'est vrai que depuis le début de son second mandat, le président américain, on le voit, hein, conteste chaque jour... toutes les décisions qui peuvent s'offrir à lui, et ça fait boule de neige chez nous en France.
Voilà, notamment à droite. Déjà, la fermeture de la chaîne C8, décidée l'été dernier par l'ARCOM, actée hier par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative. Eh bien, à droite, on fait le procès de cette décision de justice. Le Rassemblement National, déjà pour commencer, Marine Le Pen, sur X, anciennement Twitter, dénonce une terrible régression qui donne raison aux ayatollahs de la pensée unique, aux oukases d'une grande gauche sectaire qui ne voudrait voir et entendre qu'une seule voix, celle du système. Même ton du côté du patron du parti, Jordan Bardella. Regardez ce qu'il dit, c'est un recul inédit pour le pluralisme et une lourde défaite pour la liberté d'expression. Là où la censure de gauche triomphe, c'est la démocratie qui s'éteint. Chez les Républicains, cette fois-ci, la disparition de C8 fait également grincer des dents, notamment du côté de Laurent Wauquiez.
On ne m'enlèvera pas de la tête que cette décision de fermeture de C8, elle est due à une seule chose, c'est que ça appartient à un groupe médiatique qui ne convient pas à certains et qui ne pense pas comme il faudrait. Là, ce qui est en jeu, c'est une conception aussi de la démocratie et de la liberté d'expression.
Réaction également du côté du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, la caution de droite de l'équipe Bayrou, a posté, regardez ce petit message pour soutenir C8, là encore sur X. Sa disparition du paysage audiovisuel la prive d'un espace d'expression. Voilà pour le volet TNT. Je vous rappelle quand même que C8 n'est pas la seule chaîne à disparaître. Énergie 12 également cessera d'émettre au même moment, le 28 février. À minuit.
Et le ton est monté aussi sur un autre dossier, celui du Conseil constitutionnel.
Exactement, avec la nomination de Richard Ferrand à sa tête, décision actée de justesse à une petite voix près par les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, grâce à l'abstention du Rassemblement national. L'ancien patron des députés Les Républicains évoque une nomination purement et simplement politique. Écoutez-le.
C'est une blague. C'est le plus proche du président de la République. Donc si maintenant Madame Le Pen nous explique que le président de la République lui va très bien, il faut qu'elle l'explique à ses électeurs. Tout ça n'a aucun sens, si ce n'est à y voir un deal caché avec le président de la République.
Voilà, si on lit entre les lignes, le Conseil constitutionnel n'aurait pas ou plus de liberté de pensée.
Sauf que ce n'est pas la première fois que la droite met en cause quand même le Conseil constitutionnel.
Non, un exemple. L'année dernière, souvenez-vous, sur la censure de la loi immigration, Éric Ciotti accusait, c'était sur RMC d'ailleurs, le président du Conseil constitutionnel de l'époque, Laurent Fabius, de collusion avec Emmanuel Macron.
C'est surtout un hold-up démocratique qui prive le peuple français de sa souveraineté.
Alors, quelle solution propose-t-on à droite? Eh bien, redonner la voix au peuple. Et c'est l'actuel ministre de l'Intérieur qui le dit, Bruno Retailleau, qui a fait savoir dimanche qu'il y avait, je cite, une tension entre l'état de droit et la souveraineté populaire. Bruno Retailleau qui a également plaidé de nouveau pour un référendum sur l'immigration.
Alors, souveraineté populaire, ayatollah, oukase, système, démocratie qui s'éteint. C'est la trumpisation des esprits, Alain Duhamel?
Je dirais pas la trumpisation des esprits. C'est pas que j'ai la moindre sympathie pour Trump et pour le style qu'il a adopté et pour les thèmes qu'il développe. Hein. Mais d'abord, on n'a pas attendu Trump pour être sectaire et, le cas échéant, mensonger. On était très doués tout seuls pour faire ça. Hein. Et moi, je me rappelle, s'agissant du Conseil constitutionnel, de ce que pouvaient dire Jean-Marie Le Pen, Georges Marchais, plus loin, Charles Pasqua. Et ben, si on veut un exemple tout récent, et que je pense que beaucoup de gens se rappellent, l'année dernière, on a voté la loi immigration, immédiatement, la droite a dit « scandaleux, 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 le Conseil constitutionnel nous censure, c'est une horreur ». Et quand c'était la loi sur la retraite, la gauche a dit, etc., le Conseil constitutionnel est parti pris. Donc, on n'a pas inventé le trumpisme, on ne l'a pas suivi, on l'a devancé. Bon, par ailleurs, je trouve que c'était très bien fait, ce mur, mais il faut être... équitable. Faut essayer d'être équitable. Hein. Il y a beaucoup de voix de ce genre à la droite de la droite. Olivier Marleix, qui n'est pas le plus fin, Éric Ciotti, qui n'est pas le plus mesuré, ou Laurent Wauquiez, qui n'est pas le plus franc. Bon, donc ils y vont absolument à fond. Mais il ne faut pas oublier qu'à la gauche de la gauche, c'est-à-dire les insoumis et aussi les écologistes, les propos sont tout aussi violents. Il ne faut pas montrer simplement la moitié. Alors, un, on a fait du trumpisme avant Trump, et deux, on n'en est pas au trumpisme. Cela dit, le danger du trumpisme, il est sérieux.
Alors, je partage l'avis d'Alain sur le fait que le terme de trumpisation est sans doute pas adéquat. Il y a une droitisation de l'opinion publique et du fonctionnement des partis politiques qui envahit l'espace public en France et d'ailleurs largement en Europe et dans l'ensemble du monde occidental. Toutefois, on peut remarquer qu'il y a des modes de fonctionnement de cette trumpisation que l'on retrouve, et en particulier, même si elle est, je suis d'accord, diffusée sur l'ensemble de la classe politique, que l'on retrouve dans la droite dite républicaine. Et je vois quatre éléments qu'on retrouve. C'est d'abord mettre à l'agenda, en tête de l'agenda, les questions migratoires, avec un bruit de fond d'une intense xénophobie et de mise en question de l'ensemble de la population origine de l'immigration, susceptible de fraudes sociales, de violences, etc. Le deuxième point, et c'était particulièrement visible avec Olivier Marleix, la psychologisation des attaques, c'est-à-dire on n'attaque pas les gens sur leur programme, c'est tout à fait le type d'attaque qu'a mené Trump contre Kamala Harris, c'est une folle, c'est une tarée, et des attaques qu'on mène contre Emmanuel Macron quand Laurent Wauquiez dit « c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme ». Il l'a dit, il l'a écrit, mais c'est terrible, c'est lui dénier sa dignité d'être humain.
C'est surtout complètement stupide.
Je suis bien d'accord. Le troisième élément, c'est l'attaque contre les élites, les fonctionnaires,
les institutions,
les
décisions de justice.
Les décisions de justice, et là, ce troisième élément de lutte contre les élites et ce qui fait l'état de droit. Et puis le quatrième élément, c'est l'attaque contre la culture. C'est-à-dire la culture qui serait peuplée d'opposants politiques, et on l'a vu à travers des décisions qui ont été prises dans les collectivités locales. On l'a vu pour Laurent Wauquiez, l'attaque contre la Villa Gilet au motif, qui est une institution culturelle lyonnaise, au motif que la Villa Gilet serait peuplée d'opposants culturels. Je l'invite à relire le discours d'André Malraux le 27 octobre 1966, quand il a défendu le fait de ne pas supprimer les paravents qui étaient joués à l'Odéon, la pièce de Jean Genet. Et il l'a fait. Il dit « je partage pas ce qui est dit dans les paravents, mais je me battrai jusqu'au bout pour qu'on puisse jouer cette pièce ». Et finalement, ces quatre thèmes qui sont poussés, j'allais dire, au maximum par Trump, ils sont repris, il faut bien l'avouer, par la droite républicaine.
Ça peut payer, parce que l'intérêt, non. Trump, ça a payé électoralement. Est-ce que ça peut payer ici, électoralement?
Alors, d'abord, je reviens d'un mot, sur ce que je disais. Qu'on soit submergé par une vague de populisme à l'échelle européenne, et même d'ailleurs
dans Nord-Amérique, oui.
Et le monde occidental, parce que oui. On trouve ça aussi en Amérique latine, etc. C'est pas une consolation. Mais qui est une énorme vague de populisme et d'un populisme qui est de plus en plus caricatural, oui. Que ça soit équivalent à Trump, y compris sur les questions de mensonges ou sur les questions d'attaque contre la justice, en France, on n'en est pas encore là. J'espère qu'on n'ira jamais, et j'espère que, selon le résultat des prochaines élections, il n'y aura pas une bascule. Mais pour l'instant, ça n'est pas tout simplement d'ampleur comparable. Trump, il remet en cause l'ensemble du fonctionnement de la justice, et il menace la moitié de ceux qui travaillent pour le ministère de la Justice de les licencier. Bon, alors nous, le Conseil constitutionnel en prend plein la figure, comme d'habitude. Ça va s'accentuer. Selon les résultats des élections, ça peut devenir un abcès de fixation démocratique essentiel. Mais il n'y a pas le côté démesuré et primaire que ça prend chez Trump. Et de même, les mensonges, il y a beaucoup de mensonges. Moi, je me rappelle sûrement à Rasmussen aussi, au moment du référendum de 2005 sur l'Europe, les énormités qu'on pouvait sortir. On disait
le plombier
allait,
polonais.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais le déferlement du plombier polonais qui allait nous prendre tous nos emplois, donc, on n'en a jamais vu un. Et c'est dommage. C'est
mais
dommage.
Aujourd'hui, on a des ministres, pour prendre par exemple l'exemple de Bruno Retailleau, qui ouvertement critiquent des décisions de justice.
C'est vrai.
Ça, c'est quand même assez inédit de le faire assez fermement, ouvertement comme ça.
Inédit, je n'irai pas jusque-là.
On va dire que c'est assez rare.
En tout cas, c'est déplorable. Ça, on peut le dire. Un ministre, en plus un ministre important, et en plus un ministre assez
pardon,
bien...
priorité au direct, je vous interromps un instant.
C'est lui.
Madame la ministre de l'Éducation nationale évoque Bétarame.
Vous nous expliquez comment sont contrôlés tous ces établissements.
Alors, je vous renvoie à un excellent rapport parlementaire qui avait été remis au début de l'année 2024 et qui montrait qu'il y avait un niveau de contrôle qui n'était pas satisfaisant sur les établissements privés sous contrat. Donc depuis, et ma prédécesseure Nicole Belloubet s'était emparée de ce rapport parlementaire, on a remis des moyens, notamment des postes d'inspecteurs supplémentaires, et on a demandé à chaque académie de définir un plan de contrôle qui nous assure que dans les 2 ans qui viennent, on aura contrôlé 40% de ces établissements privés sous contrat. Donc, disons-le, on met fin à une situation d'un contrôle qui n'était pas au niveau et on va déployer dans les prochains mois, sur la base aussi de guides qui vont être donnés à nos inspecteurs, on diffusera très prochainement ce guide, on va mener les contrôles qui s'imposent dans les établissements privés sous contrat.
Donc, la civile demandait un audit, elle avait raison.
Voilà, on vient d'entendre Madame Borne. Alors, permettez que l'on mette quelques instants de côté notre discussion là, sur la trumpisation des esprits. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. Mais là, on est quand même face à une affaire gravissime. Est-ce que Madame Borne a dit les audits n'étaient pas suffisants. Il faut aller plus loin, il faut avoir des contrôles. Ça va avoir lieu en mars. Alors, donc, du coup, il y a du temps qui peut s'écouler. On a l'impression qu'on a, dans ces affaires de contrôle des établissements catholiques, on a beaucoup mis sous le boisseau. Il y a eu le rapport Sauvé. Non, je ne sais même pas si le rapport Sauvé s'était intéressé à Bétarame. Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait, Alain Duhamel?
Il faut être honnête. On a toujours un train de retard. Bon, c'est une évidence. Et ça n'est pas propre à cette décennie. En ce qui concerne le contrôle des dangers que courent des enfants et des adolescents, comme celui que courent des femmes. On est toujours... Il faut 10 affaires scandaleuses pour qu'il y ait une réaction suffisante. Et là, par exemple, encore aujourd'hui, c'est évident qu'on manque d'inspecteurs, parce que c'est bien gentil de dire qu'il faut inspecter. Ben, pour inspecter, il faut des inspecteurs. Bon, eh ben, on manque d'inspecteurs, c'est une évidence.
Oui, mais Alain, il ne s'agit pas non plus seulement de moyens humains et de moyens financiers. D'ailleurs, c'est très intéressant. L'inspecteur qui est allé inspecter Bétarame après les premières plaintes a dit « j'ai pas fait mon boulot » parce qu'il y a eu un système global dans la société de protection des institutions catholiques avec tout le monde savait. Moi, ces histoires m'ont séparé définitivement de l'institution catholique, les violences sexistes et sexuelles protégées par un système, protégées par la hiérarchie catholique, avec la complicité de l'ensemble de la société. Donc, on peut mettre tous les moyens qu'on veut, si on ne lève pas cette affaire-là, cette affaire de protection globale assurée par la société. Je parle à un protestant, je sais, vous ne serez pas choqués par mes propos, mais franchement, là, il faut vraiment que chacun réfléchisse à ce qui est en train de se passer.
Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que quand on manque de moyens, on manque de moyens. Et qu'à ce moment-là, on peut dire tout ce qu'on veut sur « il faut répondre vigoureusement, rapidement, etc. » C'est de la blague. Bon, donc ça,
il y a les moyens et la volonté. Hein.
Oui, non, mais attendez. L'autre chose dont parle à juste titre Roselyne et qui est beaucoup plus compliquée que d'avoir des moyens, même si les moyens, on ne peut pas les débloquer en un an comme ça par magie, hein. Mais beaucoup plus que les moyens, c'est l'attitude de l'ensemble de la société vis-à-vis de ce qui n'était pas toujours connu, mais qui pouvait en tout cas être suspecté, reniflé, approché et entendu mezzo voce. Bon, et de ce point de vue, qu'il y a eu une longue indifférence qui était une longue inconséquence et qui était même, il faut le dire, une forme d'abdication générale parce que c'était une institution vénérée, parce que c'était etc., etc., parce que la guerre laïque clérico, bon, pour toutes les mauvaises raisons qui existent, c'est vrai que la société française, mais pas seulement la société française, rappelez-vous les horreurs qu'il y a eu
en Irlande,
bien sûr. Qui était épouvantable.
Magdalen College.
Épouvantable,
ouais.
Épouvantable. Envoyer des jeunes filles sous prétexte qu'ils avaient une relation sexuelle dans ce qui était en réalité des prisons sans la moindre condamnation et y mourir. Enfin bon.
Le cardinal Barbarin dit en conférence de presse, grâce à Dieu, les faits sont prescrits.
Oui.
Écoutez, vous êtes là, vous êtes devant votre télé et vous avez envie de. Je sais pas.
De la lui faire avaler.
Oui, absolument.
On voit bien cette histoire, Bétharam, elle est choquante, terrible. Elle a affaire à des histoires de violence, mais on voit bien qu'elle devient politique, cette affaire Bétharam. Qui savait, y a-t-il eu délibérément quelqu'un qui a fermé les yeux ou plusieurs personnes qui étaient de notables locaux? François Bayrou a été interpellé d'ailleurs sur cette affaire. Le dossier. Il n'est pas que scolaire, il n'est pas que catholique, il est politique, Alain Duhamel.
Alors, le premier dossier, c'est d'abord ce que des enfants qui et des adolescents...
Bien sûr.
Bah oui, mais...
Oui, bien sûr,
je veux dire,
avec des poursuites éventuelles.
Oui, oui. C'est d'abord eux qu'il faut défendre,
bien
et
sûr.
C'est eux pour qui il faut faire tout pour empêcher que ça puisse se reproduire ou continuer à exister, tout simplement. Donc, c'est quand même de très loin la première chose. Alors, maintenant, si ça s'est produit... Eh ben c'est forcément que il y a eu des informations qui circulaient bien ou mal, qui n'ont pas été traitées comme elles auraient dû l'être. Alors ce qu'il faut regarder dans ces cas-là, c'est non pas dire tout le monde est coupable sans rien savoir, parce qu'on ne le sait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est un, qui, à quel moment et exerçant quelle responsabilité précisément aurait dû intervenir et ne l'a pas fait, aurait dû donner des instructions et ne les a pas données. Et là, il ne faut pas globaliser à l'avance parce qu'on n'en sait rien.
Il faut trouver des responsables.
Il y a des moments, il faut savoir qui était responsable de quoi, quand.
Et ensuite, il y a eu des fautes individuelles. Elles existent d'ailleurs pas seulement dans les institutions catholiques. Elles existent, hélas, dans toutes les institutions, en particulier les institutions de jeunesse. Mais il y a... Dans les clubs sportifs, bien entendu, on l'a vu. Dans les conservatoires de théâtre, et d'art lyrique, dans le scoutisme, dans les associations de jeunesse, il y a ce genre de violence sexiste et sexuelle. Mais il y a eu, de la part de l'Église catholique, un système, parce qu'il y a une violence systémique de la part de la hiérarchie catholique pour couvrir ces faits. Et moi, j'ai plusieurs exemples de ces faits qui montrent bien qu'il y a un système qui est en cause et qu'il faut dire que la hiérarchie catholique au plus haut niveau, y compris par le pape actuel, à qui on souhaite une meilleure santé bien entendu, a été extrêmement mou du genou, si j'ose dire, étant donné qu'il est dans une sage mouvance.
Le père Caricard qui est impliqué, il a été exfiltré au Vatican pendant 2 ans, il faut le rappeler aussi.
Ce qu'on peut dire autrement, c'est que dans les institutions catholiques, pendant des décennies, non, pendant des siècles, parce que ça date depuis des siècles, pendant des siècles, il y a une opacité organisée.
Merci Alain Duhamel, merci Roselyne Bachelot.